Vous êtes avec SBS French.
Les grands titres de ce dimanche 26 septembre, 9 autres décès dus au Covid-19 en Nouvelle-Galles du Sud. Les cas de Covid-19 dans le Victoria continuent d'augmenter alors qu'un léger assouplissement des restrictions est annoncé. Et Melbourne célèbre sa victoire en grande finale de l'AFL. La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 9 autres décès dus au Covid-19 et 961 cas locaux de coronavirus ce dimanche. Dr Jeremy McAnulty de New South Wales Health a déclaré que les décès comprenaient 6 hommes et 3 femmes.
One person was in their 40s, two in their 60s, two in their 70s and four in their 80s. Eight people were unvaccinated and one had received one dose of COVID vaccine.
Promettant d'en révéler plus sur la feuille de route de l'État pour sortir du verrouillage plus tard cette semaine, la dirigeante de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, déclare qu'il y a des nouvelles mitigées dans les derniers chiffres.
Pleasingly, we are seeing case numbers in southwestern and western Sydney continue to have a downward trend, but unfortunately in the Illawarra and Central Coast, we're seeing more case numbers than we'd like to see, so we ask those communities in particular to remain vigilant.
59% des personnes sont désormais entièrement vaccinées dans l'État. Le Victoria assouplira certaines restrictions de verrouillage à partir de mercredi prochain, alors que l'État dépassera la barre des 80% de première dose de vaccination. Les loisirs de plein air, comme la navigation, le tennis et le golf, seront autorisés et la limite de dépassement de 10 km s'étendra à 15 km. Daniel Andrews, le chef du Victoria, déclare que les nouvelles annonces sont modestes mais importantes.
I'm not overselling it to the point where it's more than it is, it's significant, but we've still got a way to go and we've got to get to 70% double dose and then 80% double dose in order to firstly lift the lockdown and then have pretty much everything open at the 80% mark with rules and with some limits, but open.
Le Victoria a signalé 779 autres cas de Covid-19 et 2 décès ce dimanche, un homme de 80 ans et un homme de 70 ans. Dans les zones régionales, le verrouillage sera levé dans le Grand Geelong, mais les restrictions resteront dans le Mitchell Shire en raison du nombre croissant de cas de Covid-19. Les zones rurales du Victoria participeront à jusqu'à 20 essais pour permettre au site d'accueillir un plus grand nombre de clients entièrement vaccinés. Ces essais couvriront des domaines tels que l'hôtellerie, la coiffure, le tourisme, les courses et les concerts. Le ministre de l'Industrie du Victoria, Martin Pakula, a déclaré que les essais commenceraient le 11 octobre prochain, environ 15 jours avant que l'État ne dépasse l'objectif de 70% de double dose de vaccin.
We'll be looking at how we can best establish someone's vaccination status as part of these trials, so how the Commonwealth Vax data can best be integrated with the Service Victoria app. We'll be looking at other proof of vaccination options as well, Medicare online, the Express Plus Medicare app, hard copies.
Le Premier ministre australien Scott Morrison revient des États-Unis après avoir assisté à la première réunion en face-à-face du sommet Quad, un groupe de dirigeants d'Australie, des États-Unis, de l'Inde et du Japon. Le président américain Joe Biden a accueilli les dirigeants de l'Alliance à la Maison-Blanche pour la réunion de 2 heures et ils ont discuté de la nécessité d'une région Indo-Pacifique libre et ouverte et des préoccupations concernant la Chine et la pandémie. Soulignant l'importance du regroupement, le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré sur SBS News dans une interview exclusive que l'Australie devrait pouvoir vivre en toute sécurité dans la région.
And this is a part of the world that is just changing how everything is happening all right around the world. And its future is going to determine all of our futures. And so making sure that Australia and Australians can live safe and secure in a rapidly changing environment is incredibly important, and it's the most important responsibility a Prime Minister has.
Le Parti national déclare qu'il est en pourparlers avec ses partenaires de la coalition au sujet d'un objectif du net zéro d'ici à 2050. Le chef du Parti national et vice-premier ministre Barnaby Joyce a déclaré que son parti souhaitait plus de détails sur les processus nécessaires pour atteindre un tel objectif. Bien que discret sur les détails des demandes de son parti, Barnaby Joyce a déclaré sur l'ABC qu'il ne voulait pas de perte d'emploi dans les zones rurales.
We've got to remember, this is the area where we have the mining industry, and this is the area we have the agricultural industry, and it's not just those farms, it's not just those mines, it's the towns that are attached to the commerce of those industries. It's the hairdressers, the tyre business. These people also have to rely on the nationals to make sure that we don't pull the economic rug out from underneath them.
En France maintenant, selon une étude Via Voice, les Français jugent sévèrement les médias et la façon qu'ils ont traité la crise sanitaire du Covid-19. Explication de Pierre Olivier pour Radio France Internationale.
Selon l'étude Via Voice, les Français jugent plutôt sévèrement la façon dont les médias ont traité la crise sanitaire du Covid ces derniers 18 mois. D'abord, la place accordée à la pandémie est perçue comme trop importante pour 60% d'entre eux. Le traitement qui en a été fait est quant à lui qualifié d'excessif, d'anxiogène et de catastrophiste. Toujours concernant le Covid, près d'un Français sur trois estime que l'information qui leur a été proposée par les journalistes a été inutile pour leur vie quotidienne. 18% jugent même qu'elle a été néfaste. L'autre grand enjeu de cette étude, c'est la couverture médiatique de l'urgence climatique. 6 Français sur 10 estiment être suffisamment informés par les journalistes sur le changement climatique, mais ils sont en revanche bien moins nombreux à se sentir tout à fait informés, seulement 1 sur 10. Enfin, et c'est là une information majeure de l'étude, les Français demandent aux journalistes et aux médias de traiter l'urgence climatique de manière moins anxiogène et moralisante. À la place, plus de la moitié d'entre eux demandent une information concrète, porteuse de solutions, mais aussi plus d'interventions d'experts sur le sujet.
Des centaines de personnes ont manifesté devant les Nations Unies à New York contre le traitement réservé aux femmes par les talibans en Afghanistan. De nombreux manifestants sont venus en Amérique en tant qu'enfants réfugiés et sont maintenant des adultes. L'un d'entre eux est l'activiste Matin Maulawizada, qui affirme que les représentants du précédent gouvernement afghan et les talibans se disputent la parole au nom du pays à l'Assemblée générale des Nations Unies, mais ne représentent pas vraiment le peuple.
One looted and used the funds to enrich themselves, and the other one is trying to oppress the entire nation. I have 2 cousins that are journalists. They're stuck in Afghanistan and they're in grave danger. I have female cousins that are stuck in Afghanistan and they're single and they worry about being forced into marriages.
En Afghanistan, la vie reprend son cours avec des difficultés. Écoutez ce reportage de Sonia Ghezali pour RFI sur place.
Les manèges tournent toujours dans le petit parc d'attractions qui jouxte le zoo de Kaboul. On y rencontre des familles qui s'y promènent et des jeunes filles accompagnées aux voiles colorées qui croisent dans les allées de jeunes talibans en turbanie. Lorsque ces derniers grimpent dans les nacelles, enthousiastes, les jeunes femmes attendent sur les côtés et observent la scène médusée. Ils me font peur, confie une fillette qui a effectué ce samedi sa première sortie en famille depuis la prise de pouvoir par les talibans. Je suis heureux d'avoir l'occasion de les rencontrer enfin, nous dit au contraire un jeune Kaboulien en désignant un groupe de talibans près d'un stand de tir à la carabine. L'un des hommes tente alors de gagner l'une des peluches suspendues, mais rate ses cibles. Kaboul est étrange pour tous ceux qui ont connu la capitale afghane avant la chute du précédent régime. Dans les rues, les vendeurs de ballons semblent avoir cédé leur place aux vendeurs de drapeaux talibans et de pins à l'effigie de l'émirat islamique d'Afghanistan. Les femmes sont plus rares aussi, y compris dans le centre de la capitale, où des files d'attente longent les murs des banques. Il n'y a plus de cash, plus de travail, se lamentent de nombreux Afghans. Des centaines vendent d'ailleurs leurs biens sur les trottoirs d'un quartier de Kaboul. Plus de 9 ménages sur 10 n'ont désormais plus assez à manger, selon le Programme alimentaire mondial.
Les législatives auront lieu en Allemagne ce dimanche avec les derniers meetings hier et vendredi. La chancelière Angela Merkel a donné son soutien à Armin Laschet, le candidat de la CDU.
Das ist ja ihr Land. Il s'agit de votre pays et vous décidez de votre prochain gouvernement. Et ce prochain gouvernement devra assurer la prospérité, la sécurité et la paix. Ce n'est que tous les 4 ans que vous avez l'occasion de décider au niveau fédéral qui doit façonner cet avenir pour vous à Berlin. Et c'est pour cela que je dis votez pour la CDU, votez pour Armin Laschet, pour qu'Armin Laschet puisse devenir chancelier de la République fédérale d'Allemagne. Merci beaucoup et bon courage.
Il y aura aussi un référendum lors de ces législatives sur la nationalisation des grandes sociétés immobilières. Explication de Pascal Thibault pour RFI.
Les couleurs de l'initiative jaune et lilas sont omniprésentes dans les rues de Berlin depuis des mois. Affiches, tracts, équipes mobiles récoltant des signatures. Au printemps, environ 350 000 ont été remises à la municipalité, bien plus qu'il n'en fallait pour obtenir l'organisation d'un référendum. Son objectif, obtenir l'expropriation des sociétés immobilières privées disposant de plus de 3 000 logements dans la capitale allemande. 240 000 appartements seraient concernés. L'initiative leur reproche de contribuer à la hausse des loyers, un doublement en 10 ans à Berlin. Par cette mesure radicale, les locataires seraient mieux protégés. Les opposants estiment, eux, que le coût d'une telle opération estimé à 30 milliards d'euros alourdirait l'ardoise d'une ville déjà très endettée. Ils plaident pour que le nombre de logements nouveaux augmente pour réduire la fièvre des prix. Ce référendum, même s'il obtient le soutien d'une majorité d'électeurs berlinois, n'est pas contraignant pour les responsables politiques. L'initiative témoigne cependant de l'importance d'une question qui préoccupe les Allemands, comme l'ont montré les sondages durant la campagne électorale. Tous les partis promettent de construire plus de logements ou de prendre des mesures limitant les hausses de loyers à l'avenir.
En Afrique, Théoneste Bagosora, considéré comme, je cite, le cerveau du génocide au Rwanda, est décédé au Mali à l'âge de 80 ans. Il purgeait une peine de prison de 35 ans. Charlotte Cossé, RFI.
Ancien séminariste, passé par l'école des officiers, le colonel Théoneste Bagosora est le directeur de cabinet du ministre de la Défense rwandais en 1994. Selon le TPIR, il est alors la plus haute autorité militaire présente dans le pays après l'attentat contre l'avion d'Abiarimana. Il est arrêté au Cameroun en 1996, où il avait trouvé refuge devant l'avancée du FPR de Kagame. En 2008, le TPIR le reconnaît coupable des crimes commis entre les 7 et 9 avril 1994, dont des viols et des massacres de masse. En tant que supérieur hiérarchique, il est aussi reconnu coupable pour les meurtres de plusieurs personnalités politiques, dont le Premier ministre, ainsi que pour le meurtre de 10 casques bleus belges. Il est condamné à la prison à perpétuité. En 2008, 4 ans plus tard, en appel, la Cour annule plusieurs conclusions factuelles de la Chambre de première instance et réduit sa peine à 35 ans de réclusion. Âgé de 80 ans, il purgeait sa peine au Mali. Sa demande de libération anticipée avait été rejeté le 1er avril dernier.
Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 20 degrés. Adélaïde, 19. Melbourne, 16. Hobart, 15. Canberra, 16 degrés. Sydney, 18. Brisbane, 24. Cairns, 31. Darwin, 34. Et à Alice Springs, maximal de 31 degrés. Un rappel des grands titres de ce 26 septembre, 9 autres décès dus au Covid-19 en Nouvelle-Galles du Sud. Les cas de Covid-19 dans le Victoria continuent d'augmenter alors qu'un léger assouplissement des restrictions est annoncé et Melbourne célèbre sa victoire en grande finale de l'AFL. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord l'AFL, le footy, la grande finale de 2021 remportée par Melbourne qui a battu les Western Bulldogs au Perth Stadium hier 140-66. C'est la première victoire des Demons depuis 1964 après 57 ans de galère. On écoute la réaction du capitaine de Melbourne, Max Gawn.
Everyone in the eastern states that supports the Melbourne Demons, this is for you. Lastly, after 57 years of pain, it's coming home.
Et notre collègue Nicolas Perfitch était, lui, dans le stade au Perth Stadium. Il assistait au match. On écoute un extrait d'une interview que vous pouvez d'ailleurs retrouver en podcast sur notre site internet.
Vos impressions de ce match, malgré le score sans appel de Melbourne?
Oui. C'était formidable. L'ambiance était incroyable. Plus de 61 000 personnes ici au stade de Perth. Vraiment étonnant, le premier grand final jamais joué ici. Et ouais, c'était vraiment un bon match. La première moitié, c'était vraiment serré. Mais bon, après ça, le troisième quart, Melbourne beaucoup trop fort. Ils ont commencé à attaquer. Il y avait un goal après l'autre. Et après ça, c'était trop. Et à la fin, c'était même plus que le double du score de Western Bulldogs. Alors moi, j'avais eu mon billet grâce à des amis de Western Bulldogs. J'étais juste derrière les buts, le goal, avec plein de fans de Western Bulldogs. Donc c'était un peu calme de notre côté. Ils n'étaient pas super contents, évidemment, mais quand même l'ambiance formidable et vraiment tout le monde ici a vécu quelque chose de vraiment historique. La plupart des gens ici, ils ont adopté une équipe de Melbourne. Soit des Demons, soit des Bulldogs, mais oui, les gens ici, la plupart, ils sont des fans des Dockers ou des West Coast Eagles. Mais j'ai rencontré à côté de moi, il y avait un petit groupe de quatre hommes qui étaient venus de la Tasmanie. Ils étaient venus pour voir le match. Donc c'était formidable. On avait rencontré des gens qui étaient venus d'Adélaïde. Alors quand même des gens qui sont pu venir un peu partout dans le pays où la frontière est encore ouverte. Donc c'était vraiment une formidable ambiance, vraiment sympa. Et je ne sais pas si Jean-Noël, tu peux entendre derrière moi, mais ça continue. C'est les médailles qui sont
présentées.
Voilà, donc présentées. Donc encore plein de monde, le stade encore presque plein.
On passe au rugby, la NRL. La grande finale aura lieu le week-end prochain et ce sera entre Penrith et South Sydney. On passe au foot, le ballon rond, la Ligue 1 en France. Il y avait plusieurs matchs hier, 4 matchs. Victoire du Paris Saint-Germain contre Montpellier 2-0, de Nice contre Saint-Etienne 3-0, de Lille contre Strasbourg 2-1 et le nul entre Lyon et Lorient, 1-1. Martin Guez, Radio France Internationale.
Paris City sera bien une rencontre de haut vol. Après avoir vu les Sky Blues voler très haut dans le ciel londonien et battre Chelsea 1-0, le PSG devait répondre avant de retrouver les Citizens au Parc des Princes ce mardi pour une revanche de la dernière demi-finale de la Ligue des Champions. Paris qui fait le grand 8 en Ligue 1 après 2 victoires arrachées à la dernière seconde contre Lyon et face à Metz. Les joueurs de Mauricio Pochettino devaient se rassurer et se sont mis rapidement dans le droit chemin face à Montpellier. Grâce au coup de canon pied gauche du Sénégalais Idrissa Ganagay, le milieu en feu en ce début de saison est auteur de son 3e but en Ligue 1. Neymar et Mbappé ont ensuite vendangé, mais Draxler a doublé la mise et Paris s'est imposé pour la 8e fois en 8 journées de championnat, 2-0 face aux Héroletais. Rassurer aussi les champions de France en titre. Avant d'aller à Salzbourg, en Autriche, Lille se rendait à Strasbourg, dans l'est de l'Hexagone. Et les nordistes l'ont emporté 2-1 en Alsace grâce à un Jonathan David retrouvé. L'attaquant canadien, auteur d'un doublé et 2e victoire de suite pour les Dogs, à nouveau mordant, loin de leur niche, leur premier succès à l'extérieur de la saison.
Et on passe en Angleterre. Hier, il y avait le choc Chelsea et Manchester City. Victoire de City, 1-0. Manchester United s'est incliné face à Aston Villa 1-0. Liverpool et Brentford ont fait match nul, 3-0. Mohamed Salah a marqué son 100e but en Premier League, comme nous l'explique Martin Guez pour RFI.
Centenaire Mohamed Salah qui passe le mur des 100. À la 54e minute sur la pelouse de Brentford, le pharaon de 29 ans a parfaitement repris de volée de son fameux pied gauche un long ballon. Son 100e but donc en première ligue avec Liverpool pour 151 apparitions avec les Scousers en championnat. Salah, meilleur buteur de première ligue cette saison avec 5 buts en 6 matchs. Elle y est fort du désormais seul leader anglais grâce à son nul 3 partout face à Brentford. Liverpool se hisse sur le trône avec un point d'avance sur Manchester City, Chelsea, Manchester United et Everton. Liverpool et Salah au top de la première ligue, ce n'est pas nouveau. Il a porté l'équipe jusqu'au sacre en 2020 et a terminé meilleur buteur en 2018 avec 32 buts, record à battre. Et l'année suivante, en 2019, avec 22 réalisations, il n'est plus qu'à deux longueurs de l'ivoirien Didier Drogba pour devenir le joueur africain le plus prolifique de l'histoire de la Premier League. Champion d'Angleterre 2020, champion d'Europe 2019, Mo Salah n'a plus grand-chose à prouver ou à gagner, si ce n'est avec son équipe nationale, l'Égypte, des pharaons qu'on retrouvera au rang des favoris de la prochaine CAN au Cameroun en janvier prochain.
On passe en Espagne. Hier, le Real de Madrid et Villarreal ont fait match nul 0-0. Séville a gagné contre Espagnol Barcelone 2-0. Et Alavés s'est imposé contre l'Atlético de Madrid 1-0. En Allemagne, on notera la victoire du Bayer Leverkusen contre Mayence 1-0. En Italie, l'AC Milan a battu la Spezia 2-1. Au Portugal, Benfica, premier au classement, a gagné 3-1 contre Vitória Guimarães. Et maintenant, on passe au rugby, le Rugby Championship, la sixième journée avec la victoire de l'Australie contre l'Argentine, 27-8. Le match se déroulait à Townsville. Et puis la Nouvelle-Zélande s'est imposée contre l'Afrique du Sud, 19-17. Le match se déroulait à Townsville, au Queensland également. Tennis et les tournois se poursuivent après l'US Open. Eh bien, on va se concentrer sur Metz, notamment, où la finale aura lieu ce dimanche entre Urkaz, le Polonais, et Carino Busta, l'Espagnol, qui a battu Gaël Monfils, le Français, en deux manches, 7-5, 7-6. À Ostrava, c'est en République tchèque, c'est la finale des dames ce dimanche entre Sakari, la Grecque, et Kontaveit, l'Estonienne. Cyclisme. Et l'UCI annonce que le mondial de cyclisme aura lieu au Rwanda, en Afrique, une première, et ce sera en 2025. On écoute d'abord la réaction de Thomas Vauclair, sélectionneur de l'équipe de France.
Faire des championnats du monde de cyclisme sur route au Rwanda, c'est pas juste pour faire bien en disant tiens, on va aller en Afrique, on n'a pas été, ça fera du buzz. Le cyclisme africain a vraiment, et je suis bien placé pour en parler parce que j'ai la Tropical Anissa Bongo que j'ai disputé à plusieurs reprises et j'ai vu les coureurs africains vraiment progresser et c'est un juste retour des choses, ouais, je trouve.
Et voilà pour le journal des sports de ce dimanche. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français. Comme chaque dimanche, nous revenons à présent sur un événement marquant de l'actualité et un personnage qui lui est associé. Pour en parler, nous sommes avec Émile Matassou. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
Coup de projecteur aujourd'hui sur Angela Merkel, la chancelière allemande.
Angela Merkel, oui, âgée de 67 ans, elle va passer la main, elle qui est à la tête de l'Allemagne depuis 16 ans, depuis 2005. Elle se retire alors que se tiennent ce dimanche 26 septembre dans toute l'Allemagne, les élections législatives. Il y aura un nouveau ou une nouvelle chancelière à l'issue de ces élections, puisqu'elle ne brigue pas de nouveau mandat, même si, attention, le suspense pour les élections, là, est entier, difficile de savoir qui sortira vainqueur, et il est fort possible qu'il faille plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour qu'un accord de majorité soit trouvé dans la nouvelle assemblée, le nouveau Bundestag issu des élections de ce dimanche, auquel cas Angela Merkel bien sera obligée de rester encore aux manettes quelques temps. Mais même si elle est encore là à Noël, comme le pronostiquent certains analystes politiques, le temps de trouver un accord de gouvernement et une nouvelle tête pour la chancellerie, eh bien, ce dimanche marque symboliquement la fin de ses 16 années de pouvoir, puisqu'Angela Merkel a annoncé depuis de longs mois déjà qu'elle ne se représentait pas, qu'elle ne briguerait pas de cinquième mandat. En décembre 2018, elle ne s'était pas représentée à la tête de son parti, la CDU, qu'elle présidait depuis 2000. Elle avait pris les devants, la fronde interne se faisant menaçante. Et depuis, eh bien, tout le monde avait bien compris qu'elle allait rendre son tablier de chancelière à l'issue ce cycle législatif. Ce poste de chancelier qui, avant 2005, a été occupé par Gerhard Schröder de 98 à 2005 et avant cela dans les années 80-90 par Helmut Kohl, chancelier de 1982 à 1998. Le poste de chancelier en Allemagne, eh bien, c'est l'équivalent d'un poste de Premier ministre en Angleterre ou en Australie. Le chancelier fédéral, l'Allemagne est un État fédéral avec des Länder, des régions, par ailleurs ont beaucoup de pouvoir et d'autonomie. Mais le chancelier fédéral, il incarne l'exécutif, car s'il y a bien également un président en Allemagne, son rôle est avant tout représentatif. Il n'a pas de poids, que ce soit pour les affaires intérieures ou les affaires internationales, c'est le chancelier, en l'occurrence la chancelière Angela Merkel, qui a mené de A à Z avec son gouvernement la politique du pays durant ces 16 dernières années.
Avant de revenir sur l'héritage que laisse Angela Merkel, parlez-nous un peu de son parcours, de sa jeunesse, de sa personnalité.
Elle est née à Hambourg, en Allemagne de l'Ouest, en 1954, Angela Merkel. Mais 10 ans plus tard, ses parents ont déménagé pour l'autre Allemagne, la RDA, l'Allemagne de l'Est. Son père était pasteur et il a obtenu un poste en RDA, sa mère, à elle, étant professeure d'anglais et de latin. Nous sommes là dans les années 60, en pleine guerre froide, le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest. Et donc Angela Merkel va se retrouver à 10 ans en Allemagne de l'Est. C'est là qu'elle va grandir toute son adolescence et sa famille sera étroitement surveillée par le régime communiste d'RDA. Nous l'avons dit, son père est pasteur et la religion est considérée par les communistes comme ennemie de l'État, même si elle est tolérée. Elle reçoit, en tout cas Angela Merkel, une éducation très, très stricte. Elle est protestante. Elle entame des études scientifiques ensuite, après avoir obtenu son baccalauréat, le Abitur en allemand, études scientifiques à Leipzig, toujours en Allemagne de l'Est, de la physique, de la chimie. Elle apprend aussi le russe. Angela Merkel est bilingue en russe, en anglais également. Elle se marie une première fois en 1977. Elle divorcera en 1982. Angela Merkel, qui n'aura pas d'enfant, qui se remarie en 1998. C'est au milieu des années 90 que son destin politique bascule. Le mur de Berlin tombe en 1989. Les deux Allemagnes qui se réunifient, la grande Allemagne voit le jour et la jeune Angela Merkel, eh bien, elle entre en politique à droite. Alors certains de son entourage l'imaginaient plutôt rejoindre les Verts, les écologistes. Elle rejoint les démocrates chrétiens, la CDU, incarnée à l'époque, à l'échelle nationale, par le chancelier Helmut Kohl. En 1990, alors qu'elle a occupé le poste de porte-parole du dernier gouvernement de RDA, Allemagne de l'Est, elle est élue au Bundestag, le Parlement de la Grande Allemagne réunifiée. Sa carrière politique est lancée, elle décolle. Angela Merkel se retrouve alors ministre fédérale des femmes et de la jeunesse de 1991 à 1994, puis ministre de l'Environnement. Et à la fin du règne d'Helmut Kohl, en 1998, eh bien, elle monte en grade. En 2000, elle prend la présidence à l'échelle nationale de la CDU, n'hésitant pas à faire l'inventaire des années Kohl. Elle a su attendre son heure. Ensuite, dans l'opposition, durant les années Gerhard Schröder, le social-démocrate allié aux Verts, on parlait alors à l'époque d'une coalition rouge-verte à la tête de l'Allemagne. Angela Merkel remporte elle, à la tête d'une coalition de droite CDU-CSU, les législatives de 2005. Elle devient la première femme à occuper le poste de chancelière. Elle n'a que 51 ans à l'époque. Depuis, elle n'a jamais quitté ce poste de chancelière, réélue à trois reprises en 2009, 2013 et 2017.
Quelle politique a-t-elle menée durant toutes ces années? Quels sont les temps forts de ses 16 ans au pouvoir?
Bien, elle a apporté avant tout de la stabilité. Quand vous restez au pouvoir durant 16 ans, forcément, il y a de la continuité. Angela Merkel a conforté l'Allemagne dans sa position incontestable de moteur économique de l'Union européenne. N'en déplaise à la France, l'économie allemande est la première économie européenne, l'industrie allemande, ses exportations, le marché du travail allemand et sa réglementation font que le pays a un temps d'avance. Et quand on parle du couple franco-allemand, s'il est vrai qu'Angela Merkel a entretenu de bonnes relations avec les présidents français successifs de Nicolas Sarkozy, même s'il y a eu la fin du règne de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron en passant par François Hollande. C'est elle qui imposait le rythme de ce couple franco-allemand, Angela Merkel. Sa force explique certains éditorialistes en Allemagne, c'est qu'elle n'a pas de charisme. Comprendre, pas de charisme en apparence. Elle travaille, elle négocie, elle impose ses idées. Toujours impeccable dans sa tenue vestimentaire, hein, vêtue de façon immuable d'un pantalon noir et d'une veste dont seule la couleur peut changer, mais dont le style reste le même. Angela Merkel, elle n'était pas là, elle n'est pas là pour séduire la presse people. Hein. On l'a vu une fois, une seule, en robe, avec un décolleté. C'était en 2008, lors d'une visite en Norvège. Cela avait été souligné et cela avait suscité tellement de commentaires dans les journaux que l'on n'y a pas repris. Angela Merkel, qui a su faire preuve durant toutes ces années au pouvoir de fermeté, on l'a vu lors de la crise financière de 2008, hein, mais aussi de pragmatisme pour rester au pouvoir. Déjà, elle a dû plusieurs fois, au gré des élections, changer de coalition. Elle qui défendait le nucléaire, elle s'est rangée à l'idée de voir, par exemple, l'Allemagne sortir à terme du nucléaire et fermer ses centrales vieillissantes. Elle a su imposer, parce que l'opinion, la jeunesse poussait en ce sens, que le mariage pour tous soit voté au Bundestag, la cause des gays et lesbiennes, même si à titre personnel, elle ne s'en cachait pas, elle était contre la loi et elle a voté contre cette loi, le mariage pour tous, finalement adopté. Angela Merkel, ces dernières années, a accepté de mutualiser la dette de l'Union européenne, que l'Allemagne, bon élève de l'UE, accepte de payer pour les déficits et la mauvaise gestion de nombreux autres pays européens. Surtout, Angela Merkel s'est révélée lors de la crise des migrants. En 2015, elle a ouvert en grand les frontières de l'Allemagne pour accueillir des centaines de milliers de migrants. On a parlé d'un million de migrants ayant fui notamment la guerre en Syrie et qui ont pu entrer sur le territoire allemand. Wir schaffen das, nous allons y arriver en allemand. C'est cette phrase d'Angela Merkel que l'on retiendra peut-être. Elle est restée dans un moment où tous les pays européens se refermer sur eux-mêmes et se renvoyer la balle sur cette question migratoire, elle les a accueillis, ces centaines de milliers de migrants. Angela Merkel, qui a grandi, nous l'avons dit, en Allemagne de l'Est, a surpris là tout le monde. Elle a ouvert son cœur en quelque sorte. Elle a cassé à cette occasion son image façonnée au fil des ans de rigueur, de contrôle. Ce geste politique a été accueilli dans un premier temps avec beaucoup de ferveur hein, dans toute l'Allemagne, dans l'opinion. Cette décision sera sans doute le moment fort de ses 16 années au pouvoir, même si, passé l'émotion initiale, bien très vite, elle a dû rétablir le contrôle aux frontières au bout de quelques semaines et qu'ensuite, il lui a fallu assumer les conséquences politiques de cette décision. À ce titre, les dernières élections en 2017 ont été très compliquées pour elle. Sa coalition de droite, CDU-CSU, n'a obtenu que 32% des suffrages, un score historiquement bas, et on a assisté à une poussée de l'extrême droite qui a fait campagne en 2017 contre la politique migratoire d'Angela Merkel. 94 députés d'extrême droite qui ont été élus, qui ont pu entrer au Bundestag en 2017. Après ces élections, l'Allemagne s'est retrouvée dans une quasi-impasse politique, et ce n'est qu'au bout d'âpres négociations qui ont duré plusieurs mois qu'un accord de gouvernement avait pu être trouvé entre la droite d'Angela Merkel et les sociaux-démocrates. Angela Merkel, pour rester chancelière après 2017 et en ce début d'année 2018, eh bien, elle avait dû faire des concessions importantes. Elle avait dû accepter de faire entrer au gouvernement plusieurs ministres de gauche.
Merci Émile pour ce focus sur notre personnage de ce dimanche, Angela Merkel. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français. Et on continue le programme. Je vous propose cette interview avec Lamine Sonko, qui est musicien, conteur griot et enseignant de culture mandingue et wolof dans plusieurs universités australiennes. Il est avec notre collègue Bertrand. Vous êtes avec SBS French.
J'ai le plaisir d'accueillir Lamine Sonko, musicien et griot et éducateur basé à Melbourne. Et nous nous entraînons pour avoir des nouvelles après plus de 2 ans d'absence sur nos antennes pour cause de pandémie. Bien, Lamine Sonko, bienvenue au programme.
Merci Bertrand, merci.
Oui, voilà. Ça fait bien un certain temps qu'on ne s'était pas parlé. Souvent, on s'attrapait en marge des festivals et événements divers. Mais depuis presque 2 ans, il n'y a plus d'activité. La vie est à l'arrêt. Comment est-ce que vous vous portez en cette période difficile?
Ah, mais écoute, ça va. Hein. On s'accroche, on essaie d'adapter et de voir comment en sortir.
Oui. On était habitué à vous voir à enflammer les festivals, à vraiment remettre un peu de chaleur et de vitalité dans la vie culturelle de Melbourne. Mais vous nous manquez beaucoup, hein?
Non, c'est vrai, merci beaucoup. Mais écoute, le domaine culturel est fortement touché par la pandémie, avec les confinements, les couvre-feux et la fermeture des salles, des spectacles et les cinémas et les festivals, comme tu viens tout juste de le dire. Vraiment, tout cela a beaucoup impacté la vie culturelle et les artistes qui vivent ici à Melbourne.
Oui. Comment est-ce que vous vous êtes adapté?
Écoute, on a réarrangé les programmes et les projets en pensant surtout comment s'adapter en faisant des concerts virtuels en ligne. Prendre ce moment, ce temps vide de composer et de penser pour notre futur artistique aussi.
Et composer, est-ce qu'il y a des nouveaux albums, des nouveaux projets en vue? Donnez-nous un aperçu, c'est le fruit de cette composition.
Tout juste avant la pandémie, j'étais au Sénégal pour filmer un petit film documentaire pour promouvoir la culture des griots à travers les pensées et les cultures cosmologie qui parlent un peu de la cosmologie africaine. Donc j'avais cette opportunité de filmer un petit film documentaire. Donc ce moment de crise m'a beaucoup donné l'opportunité de continuer les compositions pour ce film et aussi de collaborer avec des artistes qui font des travaux sur le secteur du cinéma. Donc, on est en train de voir comment s'adapter dans cette pandémie pour faire des spectacles de films ou des spectacles dans la façon virtuelle, comme on peut le dire.
Oui. Mais le cinéma, ça, c'est un domaine nouveau. On ne vous connaissait pas dans ce secteur-là.
Non, c'est vrai. Hein. C'est quelque chose de nouveau que je pense que la pandémie nous a enseigné de s'adapter et de voir d'autres façons à faire bouger notre art, ou de promouvoir la musique qu'on fait, ou aussi de partager ce qu'on a contribué dans la société.
Et les relations avec le public, les fans, les étudiants, parce que vous donnez cours aussi, comment ça se passe en ce moment? Comment est-ce que vous êtes resté en contact?
Oui. Comme les salles sont fermées et tout cela, et on fait tous les études en ligne.
Oui.
Parce que tu sais que je fais la musique, mais aussi je donne des cours dans les universités comme un enseignant dans le domaine de la culture des Mandingues et la culture Wolof.
Oui.
Donc ce moment de COVID-19 m'a donné l'opportunité de donner des cours à la maison. Et comme ça, je fais des collaborations avec l'Université de Melbourne et l'Université de Canberra, où je donne mes cours sur Zoom ou via Skype,
comme
on le dit en anglais un petit peu.
Oui. Et d'après vous, est-ce que ça se passe bien? Qu'est-ce qui aurait pu être fait, ce qui ne s'est pas bien passé ou qui pourrait être amélioré?
L'art a été en grande partie utilisé durant la pandémie pour diffuser des conseils éducatifs d'encouragement, de remerciement et de reconnaissance envers les personnes au front de cette bataille contre l'épidémie. Donc je pense que c'est important de aussi assister l'art comme l'art a assisté la société en donnant leur temps. Les artistes donnant leur temps de faire éduquer les gens, d'encourager les gens, d'être positifs dans ce moment, je pense que c'est important de donner la même assistance en retour pour le secteur artistique.
Oui, ok. Mm. Et un mot de la fin avant de nous quitter, peut-être un message à la communauté ou perspective d'avenir, un mot de la fin.
La pandémie nous a appris de s'adapter, d'avoir le temps de penser et de créer. Maintenant, je pense que la future, c'est d'appliquer tout ce qu'on a appris pour une future meilleure, de rester positif et aussi essayer de continuer de se connecter envers tous les objets nécessaires ou toutes les plateformes nécessaires qu'on a à ce moment. Et aussi, comme je viens tout juste de dire avant, l'impact de cette pandémie, c'est, pour moi, ce n'est pas seulement les artistes, mais aussi notre public, parce que 80% ou 50% de nos spectateurs sont des gens du diaspora.
Oui.
Et à travers nos spectacles, c'est un moment de rencontre.
Oui.
Et à ce moment, on n'a pas cette connexion avec ces gens-là.
Oui.
Quand on est à la maison, je pense beaucoup aux amis qui sont les frères et les sœurs qui vivent ici, dans la communauté du diaspora.
Oui.
Je pense que aussi on essaie comme artiste de promouvoir ou de donner des consignes ou des plateformes où on peut continuer à être en contact avec notre communauté en général. Donc mon message, c'est d'être positif et de comprendre que toutes les choses vont passer.
Voilà, Lamine Sonko, merci infiniment.
Merci beaucoup, Petra.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
Nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est mardi à partir de 13h sur les ondes de SBS. Et on va se quitter en compagnie de Ronnie Théophile qui vous interprète Les Comédiens. À très bientôt.
Yeah, voilà les comédiens, voilà les musiciens, voilà les magiciens, qui arrivent bien, voilà les comédiens. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.